Bonjour Antoine Tricot.
Bonjour.
Alors, première fois sur cette antenne, vous nous proposez de réfléchir à des questions qui vont être très diverses. Alors, il y en a deux pour l'instant, hein, parce que vous serez là la semaine prochaine et après, on verra à la rentrée en fonction de vos disponibilités. Mais l'idée, c'est que vous vous posez des questions, vous avez des interrogations et vous venez y répondre ici.
On va dire ça comme ça, oui.
Alors, quelle est votre interrogation du jour ?
Peut-être ce serait de façon générale, est-ce que l'Algérie est une dictature ou pas ? Donc, j'avais très envie de parler de l'Algérie et de profiter donc de ce créneau qui m'était généreusement offert pour parler un peu de ce pays et autrement que pour une quelconque commémoration comme on a l'habitude de le faire et aussi juste parce que finalement on n'en sait pas grand chose de l'Algérie même si c'est un peu le pays sœur de la France. Et on se souvient à peine que la guerre d'Algérie s'est terminée en 1962, que le pays a subi une guerre civile dans les années 1990 et qu'elle est aujourd'hui gouvernée par Abdelaziz Bouteflika, dont en général on ne sait pas grand chose. C'était aussi l'occasion de parler un peu de propagande parce que ça c'est un sujet que j'ai pu traiter dans une autre vie on va dire et en essayant d'aller un peu plus loin que les pontifs qu'on a l'habitude d'entendre, alors pas forcément sur cette antenne et dans cette émission qui traite de liberté d'expression, mais un peu partout ailleurs.
Alors c'est vrai qu'ici on a la chance, c'est sans doute les rencontres qui ont fait ça, de parler très souvent de l'Algérie, notamment avec Akram El-Kaïd, qui vous connaissez peut-être, qui est un excellent journaliste franco-algérien d'une intégrité remarquable, qui publie régulièrement des livres où il est question d'Algérie, qui publie aussi une chronique du Blédard que je recommande à tout le monde, et qui vient à la gentillesse de venir souvent nous parler d'Algérie, avec qui on a pu apprendre beaucoup. Zora Mahi aussi est venue sur cette antenne parler de l'Algérie, de l'histoire de l'Algérie qu'elle a vécue de près, et j'allais dire dans sa chair, dans son ressenti. Elle vit maintenant en France depuis très longtemps, mais elle sait pourquoi elle a quitté l'Algérie, et elle sera là la semaine prochaine. Donc vous aurez l'occasion de la rencontrer. Voilà. Nadia Moulay qui est avec nous ce matin, elle a fait un livre sur qui s'appelait Mémoire croisée, c'est ça ?
Portrait croisé.
Voilà, sur alors là c'est des questions de guerre d'Algérie, mais il était aussi question d'Algériens que vous avez rencontrés qui vivent en France, etc. Donc bah il se trouve que l'Algérie est très très présente sur cette antenne. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est bien qu'on continue à s'intéresser à ce pays avec vous ce matin. Mais vous donc Antoine, pourquoi vous avez décidé de nous parler de liberté de la presse en Algérie. Quel a été le déclic ?
Alors, comme il se doit aujourd'hui dans le journalisme moderne, parce que voilà, je suis connecté comme il se doit aujourd'hui, tout est parti d'un tweet. Donc le tweet en question émane de Pierre Aski, le directeur du site internet d'information rue 89, qui, le 29 juin dernier, envoyait une photo de la une d'El Watan, un journal francophone algérien, qui titrait alors « Comment le pouvoir étouffe les droits de l'homme ». Alors Pierre Aski accompagnait cette photo de cette exclamation « On ne peut pas dire que la presse algérienne soit muselée ». Et effectivement, à lire l'article qui accompagne cette une d'El Watan, on n'a pas l'impression que la presse soit à la botte du pouvoir en Algérie. Le journaliste y fait un vif compte-rendu du dernier rapport du collectif des familles de disparus en Algérie qui a été rendu à Paris à la fin du mois de juin dernier. Alors comme le rapport El Watan, le document de 149 pages quand même, donc c'est assez conséquent, fait une description exhaustive des violations des droits de l'homme en Algérie ces dernières années. Le rapport souligne notamment les dysfonctionnements du système judiciaire, le renforcement des lois coercitives en juillet 2012 et la régression générale des libertés fondamentales un peu partout dans le pays. Alors l'article évoque même des cas de torture dans les commissariats du sud de l'Algérie.
Et alors si je vous comprends bien, à la lecture de l'article, on apprend que l'Algérie n'est pas un pays libre, que c'est une horrible dictature, mais dans lequel on a le droit de dire qu'il n'y a pas de liberté.
Oui, effectivement, c'est un peu ce qui ressort de l'article, et c'est un paradoxe quand même qui mérite d'être souligné. Donc l'article paraît librement dans un pays pour dire combien ce pays est dictatorial et autoritaire, et combien, entre autres, la liberté d'expression y est bafouée. Donc ça a de quoi surprendre, parce que ça ne correspond pas du tout à l'image qu'on peut se faire communément d'une dictature. En général, dans nos esprits, cette dictature s'accompagne du musellement visible des médias, un peu comme c'est le cas dans le livre de George Orwell, 1984. Or, dans cet exemple d'article, comme le dit Pierre Aski, on ne peut pas dire que la presse algérienne soit muselée, puisqu'on y critique ouvertement le régime et on y dit que la presse est muselée. Donc pour l'Algérie, on pourrait citer l'exemple d'Internet aussi de la même façon. Il n'y a pas sur les réseaux sociaux en Algérie de véritable censure, contrairement à ce qui se faisait dans la Tunisie de Ben Ali par exemple. Et chacun semble pouvoir poster sur son Facebook ce qu'il veut, et même certains par exemple se montrent en photo dans des manifestations illégales dans les lieux où normalement on n'a pas le droit de manifester. Donc, si Internet et si la presse semblent libres, on peut se demander si l'Algérie est une dictature. Donc, ce qui a motivé cette chronique. Et je vous rassure tout de suite, cette question, pour moi, est une question purement rhétorique, parce qu'au vu notamment du rapport que fait le collectif des familles de disparus en Algérie, dont je parlais tout à l'heure, on peut répondre sans difficulté, oui, l'Algérie est une dictature.
Alors, deux petites questions. Tout d'abord, vous parlez du collectif des familles de disparus. Vous pouvez nous dire un mot sur cette association, parce que pour qu'on sache un peu d'où viennent les sources, hein, c'est important pour
c'est
nous.
C'est important, effectivement. Alors, le collectif des disparus en Algérie est né à Paris en mai 1998, donc ça a été une organisation qui a été fondée en exil pendant la guerre civile, et sous l'impulsion d'un groupe de mères de disparus qui justement recherchaient leurs enfants et demandaient que toute la vérité soit faite sur ces disparitions, qui les avait enlevés, qu'est-ce qui s'était passé, est-ce qu'ils étaient décédés ou pas, et si l'État savait quelque chose. Alors depuis, ce collectif s'emploie à sensibiliser l'opinion publique sur ces questions, et notamment sur toutes les violations des droits de l'homme dans les années 90 en Algérie et aujourd'hui encore.
Est-ce que des disparus sont réapparus ?
Alors ça, c'est une très bonne question auquel je n'ai pas de réponse. Mais en tout cas, la question des disparus est une question qui ramène toujours... C'est un peu la plaie ouverte qui rappelle toujours la guerre civile en Algérie qui dit qu'il y a des grandes choses dont on ne sait rien de ces années qui sont passées. Donc voilà, des assassinats, on ne sait pas qui les a perpétrés. Est-ce que c'est les services secrets ? Est-ce que c'est la police ? Est-ce que c'est l'armée ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est les islamistes contre lesquels l'État était censé... faire de la guerre.
Ou est-ce que c'est tous
voilà. Ou c'est tous
voilà,
en même temps.
C'est tous en même temps. Moi, ça, je pense qu'il n'y a peut-être pas un seul responsable. Mais bon, ça, c'était donc pour savoir un petit peu. Et on peut consulter, je l'ai fait, peut consulter ce rapport sur Internet. Il est disponible, téléchargeable. Donc, je le signale aux auditeurs. Revenons à l'idée de la dictature. Malgré tout, à ma connaissance, le pays, l'Algérie, est doté d'institutions démocratiques.
C'est vrai que...
les mêmes qu'en France d'ailleurs.
Oui, c'est vrai que l'Algérie n'a cessé de mettre en avant cette façade démocratique, enfin républicaine on va dire, plus ou moins démocratique justement, mais depuis la fin de la guerre d'indépendance en 1962, l'Algérie a vu succéder surtout des régimes autoritaires. Donc celui du FLN d'abord, puis celui des généraux dans les années 90, et enfin celui d'Abdelaziz Bouteflika depuis 99-2000. Mais pendant tout ce temps, effectivement, on a conservé les institutions républicaines calquées sur le modèle français. Alors, même ces institutions, finalement, ne sont plus que des coquilles vides, dépourvues de tout pouvoir. Et de même, des élections ont continué à être organisées pendant toutes ces années. Et même si elles n'attirent aujourd'hui plus qu'un tiers de l'électorat et qu'elles sont systématiquement dénoncées un peu partout comme étant truquées Pourtant, elles maintiennent cette illusion d'un semblant de démocratie et de débat politique. Et ce qui est même étonnant, c'est que les Algériens eux-mêmes, malgré toutes leurs critiques contre leur régime, etc., ils restent très attentifs à ce jeu pseudo-démocratique. Et ils sont, par exemple, ils accordent beaucoup d'attention aux débats qui entourent les élections, etc., même s'ils n'attendent plus rien de ces élections. Alors, et Bouteflika, justement, s'est très bien joué de cette ambiguïté. Et il brandit souvent l'exemple du parti travailliste, trotskiste, qui reçoit depuis 2002 à environ une vingtaine de sièges au Parlement. Et cela lui permet de dire, à chaque fois qu'on le critique, en disant « Mais regardez comme le pays est démocratique, il y a même des trotskistes à l'Assemblée. » Ce qui n'arrive pas partout.
Oui, même pas en France, d'ailleurs. Voilà. Et alors, si je vous comprends en creux, c'est ce que vous nous dites, c'est que le discours autour de la liberté de la presse, c'est une, comme ça, un petit peu scandaleuse, même contre le pouvoir. Je ne sais pas si on peut... Si El Watan est représentatif, parce que il y a quand même encore un délit de presse, vous l'avez évoqué un peu plus haut dans votre chronique, quand on s'attaque vraiment à des choses précises, des affaires de corruption et tout ça, je crois savoir que c'est plus compliqué de faire des enquêtes quand on est journaliste en Algérie. Mais bon, vous me dites en fait que la liberté de la presse participe à cette forme d'illusion démocratique.
Oui, je reviendrai sur la question d'El Watan un peu plus tard, mais effectivement, la liberté de la presse est garantie dans la constitution algérienne, donc c'est écrit noir sur blanc, et par exemple, Bouteflika, notamment quand il est arrivé au pouvoir, s'est fait un peu le défenseur de cette liberté de la presse, et même dans une interview que j'ai retrouvée qu'il avait donnée à l'Express, il disait être, alors je cite, « un fervent admirateur du président américain Jefferson », qui aurait préféré un pays où la presse est libre à un autre doté d'un bon gouvernement. Et dernièrement, même Bouteflika faisait la promesse de libéraliser l'audiovisuel public et de publier une nouvelle loi organique sur la presse censée dépénaliser ce délit de presse dont vous parliez tout à l'heure.
D'accord. Et alors, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, non ? Ce serait...
En fait, tout ça, c'est plutôt des effets d'annonce. Il n'y a pas grand monde qui est dupe et c'est jamais suivi de répercussions sur la réalité. Justement, le rapport du collectif des familles de disparus en Algérie dénonce une situation préoccupante aujourd'hui encore pour la liberté de la presse en Algérie. La nouvelle loi organique promulguée en janvier 2012, donc on attendait beaucoup de choses, etc., n'a pas changé grand-chose pour les journalistes. Ils sont toujours poursuivis, comme vous le disiez, par le régime, comme le rapporte souvent Reporters sans frontières. Et notamment, il mettait en avant l'exemple de Mansour Si Mohamed, donc qui était juste quelques mois après la promulgation de cette loi organique, a été condamné au début de l'année, donc voilà, c'était l'année dernière, à 2 mois de prison ferme pour diffamation. Et alors que sur l'article dont il était question, accusait simplement une directrice des impôts de ne pas avoir respecté une décision du Conseil d'État. Alors, et pour ce qui est de l'audiovisuel public, c'est aussi la même chose. La réforme attendue que promettait Bouteflika n'a rien changé. Il a juste permis de créer 3 chaînes thématiques en 2012 et en 2013. Mais généralement, la télé est toujours aux ordres du pouvoir et même dans les films diffusés, on censure toujours les scènes de baiser, alors, ce qui peut être assez étonnant. Et par contre, je ne dis rien des informations qui, elles aussi, sont très très contrôlées.
Mais alors, comment se fait-il que, dans ce contexte, le journal El Watan puisse critiquer aussi vertement le régime ?
Alors, c'est effectivement la question que je me suis posée un peu plus profondément, et on peut trouver plusieurs réponses à cette question. Alors, tout d'abord, l'existence de quelques journaux indépendants fait partie de la facette démocratique dont on parlait au début. Au même titre que les élections factices, que le fait qu'il y ait encore des syndicats, etc. Et cela permet de sauver les apparences à l'étranger, par exemple. De plus, on peut dire que les critiques portées par cette presse indépendante, on va dire, sont d'autant plus indolores pour le pouvoir qu'elles s'adressent à une minorité de la population. El Watan, comme on l'a dit, est un journal francophone. Or, ouais. Qui parle français aujourd'hui en Algérie, 50 ans après l'indépendance du pays ? La plupart des jeunes des classes populaires ont été soumis à cette politique d'arabisation qui s'est intensifiée dans les années 1980. Et aujourd'hui, ces jeunes de classe populaire ne parlent qu'un dialecte algérien à dominante arabe.
Mmh. Enfin, en même temps, on ne peut pas leur en vouloir de parler leur langue. Hein.
Pas du tout. Après, est-ce que l'arabe est la langue de l'Algérie ? C'est une grande question.
Et, ce sera une autre question.
Une autre question, voilà. Et donc, qui parle français aujourd'hui ? Les personnes âgées qui ont appris le français à l'école, les classes dirigeantes aussi, et une partie des classes moyennes, comme les intellectuels et certains étudiants, donc notamment dans les filières scientifiques, où le français est encore utilisé comme langue d'enseignement. Mais la population étant très jeune en Algérie, et souvent d'un milieu plutôt populaire, cette frange francophone est aujourd'hui minoritaire. Certes, les intellectuels francophones, pour la plupart, continuent dans une certaine mesure à exprimer une critique envers le pouvoir, en tout cas une pensée critique, mais leur isolement sur le plan culturel les rend impuissants sur le plan politique. Donc j'ai justement une amie algérienne qui est directrice d'un centre de recherche à Alger qui me disait à ce sujet que ses positions féministes et ses critiques envers le pouvoir était bien connu, mais que le problème n'était pas de dire les choses, ni même de savoir que le régime était corrompu, mais elle me disait que c'était l'impuissance qu'elle ressentait ensuite au moment de passer au niveau de l'action politique. Alors le spectre des assassinats durant la guerre civile est encore très présent pour ces intellectuels, et sans parler des manipulations habiles du pouvoir pour faire taire ses critiques. On peut parler notamment du fait que le régime a offert à tous ces intellectuels, ou souvent en tout cas, des postes à l'université ou dans la haute fonction publique. Et au moment des révolutions arabes, par exemple, le pouvoir a augmenté de façon très conséquente tous les salaires de ces hauts fonctionnaires, et leur a même donné 1 an de salaire d'avance pour certains.
Donc grâce à la manne pétrolière, hein,
grâce
ça, c'est
à la manne
possible.
Pétrolière, car voilà, l'Algérie possède un trésor énorme grâce à cette manne pétrolière. Et du coup, voilà, ces hausses salariales, etc., ces postes assez agréables n'amènent pas forcément ou ne motivent pas à participer à la lutte. Et en plus de ça, la ministre de la Culture, donc qui est une ex-féministe, une ex-révolutionnaire, n'hésite pas à limoger rapidement certaines de ces personnes jugées un peu trop remuantes. Et sans oublier le fait que Bouteflika s'appuie sur une police pléthorique et toute puissante qui réprime avec force toute tentative de mobilisation un peu trop sérieuse. Donc bref, finalement, en Algérie, on peut parler, certes, mais agir semble bien difficile.
Et donc vous ne pensez pas que la presse puisse donner l'impulsion pour un changement de régime en Algérie? Bon, on pourrait élargir la question, parce que est-ce que la presse peut donner l'impulsion pour un changement de régime un peu partout? Ça, je ne sais pas. Mais on va se concentrer sur l'Algérie pour aujourd'hui.
Bon, rien n'est exclu. Je ne peux pas dire le futur, peut-être. Mais dans un régime autoritaire, un journal critique ne dessert pas forcément le pouvoir, en tout cas pas forcément toutes les sphères du pouvoir, et peut avoir une véritable utilité pour certains, justement, dignitaires du régime. L'erreur est souvent, justement, de voir une dictature comme quelque chose de monolithique, d'homogène, d'un seul bloc. Mais, en fait, les luttes d'influence et les structures de pouvoir, ils sont aussi nombreuses que dans une démocratie. Alors, on va prendre l'exemple d'aujourd'hui. Bouteflika est gravement malade. Donc, il a passé 3 mois en France pour se faire soigner. Donc, tout le monde en Algérie prépare sa succession activement, et la lutte autour du pouvoir s'annonce acharnée. Alors certains généraux entendent maintenant reprendre l'influence que Bouteflika leur a lentement confisquée au cours de ces 10 années de pouvoir. Et du coup, les articles critiquant vertement la politique du président algérien actuel en matière de droits de l'homme, entre autres, ne sont pas pour déplaire à ces généraux qui attendent de profiter du changement de régime. Alors attention, justement, je suis pas en train de dire que les journalistes d'El Watan sont coupables d'affinité avec une quelconque partie du régime. Au contraire, ils se battent farouchement pour leur indépendance, ils sont même criblés de procès, et ils luttent vaillamment contre l'étranglement financier qui menace leur journal. Mais je dis simplement que l'ampleur de leur marge de manœuvre, de ce qu'ils peuvent dire ou pas, dépend beaucoup de la situation politique du pays, et que parfois laisser un peu de marge aux journalistes peut avantager certaines parties d'un pouvoir dictatorial.
Peut-être même d'un pouvoir pas dictatorial. Enfin voilà, ça me gêne toujours un peu. À la fois, je comprends parfaitement ce que vous dites, certains aspects de la corruption, alors peut-être pas à la même échelle, mais je pense qu'on peut aussi retrouver ça dans notre pays, où la presse évidemment est libre, mais il y a aussi des pressions. On l'a vu, par exemple, vous ne pourrez plus lire l'histoire de l'affaire Bettencourt sur Mediapart. Il y a aussi des pressions qui viennent du pouvoir. Il y a aussi un pouvoir. Peut-être pas dans la même mesure, c'est peut-être pas un système généralisé, mais des problèmes de corruption des gens qui sont au pouvoir en France aussi. Donc voilà, c'est toujours à mon avis une question de degré. La dictature n'est pas une question, il n'y a pas un moment on est dans une démocratie et à un autre moment on est dans une dictature. Je pense qu'il y a plusieurs nuances de gris, pour reprendre un truc qui n'a rien à voir. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Non, moi je suis tout à fait d'accord. Après, effectivement, c'est un sujet très dangereux, très compliqué.
Et c'est bien de l'avoir abordé pour une première chronique.
Voilà, et on va dire que les politologues s'écharpent pour savoir quelle est la nature du régime algérien, etc. Donc, on va laisser ça aux gens plus doctes que nous, mais en tout cas, voilà.
Non, puis interrogeons-nous aussi sur nous. Voilà, parce que quand on voit, on parlait d'Haïti, par exemple, dans la première heure, quand on voit des régimes particulièrement corrompus, particulièrement dominés par les États-Unis, particulièrement, enfin, des exemples caricaturaux, on se dit, mais est-ce que c'est pas un laboratoire de ce qui va se passer chez nous bientôt? Ça peut nous interroger sur notre propre gouvernement.
Ça, c'est très intéressant, parce qu'on a tendance à voir l'Algérie comme justement un régime un peu passéiste, donc le voir comme le laboratoire de ce qui peut nous arriver, ça renverse la vision des choses. Mais ce qui est sûr, c'est que ça pose beaucoup de questions quand on réfléchit aux intellectuels en Algérie qui ont du mal à prendre position concrètement contre le régime, à participer aux luttes qui sont chaque jour en Algérie, parce qu'il y a beaucoup de grèves en Algérie, par exemple. Et on peut, voilà, tout de suite, ça nous renvoie à nous. En France aussi, la plupart des intellectuels critiques se trouvent à l'université, produisent une pensée critique très, très prolifique et très intéressante, mais concrètement, n'est pas suivie de beaucoup d'actions. Donc, voilà.
Parce c'est, qu'ils ont aussi, une place à perdre. Ils ont une place
aussi,
à perdre.
Aussi, ils ont des postes très confortables, etc. Donc, effectivement, ça peut poser question. Ça peut amener à réfléchir.
Tu es sûr que ça vous intéresse, Nadia?
Oui, oui.
Parce que vous êtes à la fois journaliste d'origine algérienne.
Oui, française d'origine algérienne de mes parents. Je connais bien l'Algérie.
Vous connaissez bien l'Algérie.
Je connais bien l'Algérie des vacances, quoi.
Oui.
Ce que je veux dire par là, c'est que l'Algérie, c'est pas un cas géopolitique pour moi. C'est un pays que j'ai dans le cœur, quoi. Donc, oui, il y a des choses avec lesquelles j'étais d'accord, il y a des choses avec lesquelles j'étais pas trop d'accord, mais c'est compliqué, quoi. L'Algérie, je dirais que c'est une rente pétrolière, quoi. C'est une dictature pétrolière. Et que je pense pas que Bouteflika se soit effacé lentement face aux généraux. Je pense que au contraire, c'est plutôt un jeu entre eux et que c'est pas. Oui, c'est un peu une marionnette à mon sens. Mm-hmm. Et qu'au fond, ceux qui dirigent vraiment l'Algérie, ce sont les généraux dont ça, les noms sont souvent presque tabous.
Voilà, mais ça, c'est très dur à savoir en fait qui dirige vraiment l'Algérie. C'est pour ça que je dis que c'est un vrai débat de politologue, c'est que. Alors, on n'en sait pas grand-chose, on ne sait pas... Et c'est ce que je voulais dire, c'était justement que les structures du pouvoir, ils sont très, très complexes.
Ouais, et par rapport à la langue française, moi, j'allais vous dire que tout le monde parle français en Algérie, par contre. Alors, pour l'entendre y aller régulièrement, je vous assure que tout le monde parle français.
Moi, je me suis retrouvé à Babzouar tout seul, donc dans un quartier du sud d'Algérie, d'Alger, très populaire. Personne ne parlait français.
Ouais, moi, je sais pas, mais en tout cas...
Écoutez, allez-y ensemble la prochaine fois et ramenez-moi des infos, bon sang.
Donc, voilà.
Alors, moi, je vais citer mon Akram Belkaïn, puisque voilà, c'est un peu ma vie. Il dit, et effectivement, qu'il y a encore beaucoup de gens qui parlent français, mais que les jeunes parlent l'algérois, notamment. Il ne supporte pas, lui, cet accent algérois. Il est un peu snob, hein, Belkaïn. voilà, il parle justement d'une sorte de petit patois local. Voilà. Mais bon, après ça, je ne sais pas. Donc, je vous fais confiance. En tout cas, merci Antoine. La semaine prochaine, vous nous parlerez d'un autre sujet totalement différent. Quelle sera la question ?
Alors, la question sera certainement, est-ce que la musique électronique a une utilité politique ?
On reste dans la politique quand même. Voilà, et là, vous nous emmènerez non pas en Algérie, mais à Berlin.
On va dire qu'on va commencer par Berlin.
Oh là là, on va voyager avec vous. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.
Merci.